France Culture.
Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore la foi?
Bonjour Jean-Luc Gadreau, en ce troisième dimanche du carême, et donc pour vivre ensemble ce rendez-vous de Soleil, le carême protestant. En partenariat avec la Fédération protestante de France et les éditions Olivetan, la paroisse de l'église protestante unie de l'Annonciation a confié cette année ses interventions à la pasteur Nathalie Chaumet, pasteur à Paris, dans l'église protestante unie de l'Étoile. Autour du thème « L'audace de vivre, des gestes pour espérer », Nathalie Chaumet nous propose un chemin à partir de l'évangile de Luc. Des gestes simples, parfois fragiles, parfois risqués, qui disent un choix, celui d'espérer envers et contre tout. Des gestes pour venir aujourd'hui encore nourrir notre courage d'être sur le chemin de Pâques. Pour nous accompagner musicalement dans cet itinéraire radiophonique, le talent et l'art de Pauline Griffith et la lecture des passages bibliques par Florence Guémy. Après un filet jeté, un brancard porté, nous rencontrerons aujourd'hui une femme qui va répandre du parfum sur les pieds de Jésus. Donner pour rien, est-ce perdre, est-ce gaspiller, ou dire tout simplement merci pour la vie reçue. Bonjour Nathalie.
Bonjour Jean-Luc.
Alors Nathalie, comme je le rappelais à l'instant, après la confiance avec ce filet jeté, puis la solidarité avec le brancard du paralysé descendu par le toit, quelle dimension nous invitez-vous à explorer ce matin et au travers de quels gestes de l'Évangile, même si quelques indications ont déjà été données?
Ce matin, Jean-Luc, nous allons découvrir la grâce d'un geste, à partir du récit de la femme qui répand donc du parfum sur les pieds de Jésus. Avec ce geste, nous allons partager un élan de générosité et, je l'espère, entrer ensemble dans la joie de la gratitude.
Eh bien, écoutons le début de cette histoire. Elle se situe au chapitre 7 de l'Évangile de Luc, versets 36 à 50.
L'un des pharisiens invita Jésus à manger avec lui. Étant entré dans la maison du pharisien, il s'allongea à table. Il y avait dans la ville une femme fautive. Ayant appris qu'il était allongé à table dans la maison du pharisien et ayant apporté un vase d'albâtre plein de parfums, elle se plaça par derrière, tout en pleurs, aux pieds de Jésus, et elle se mit à mouiller ses pieds de larmes. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux du parfum.
Nathalie, vous vouliez nous parler ce matin donc de la grâce d'un geste, mais la scène de cette histoire a plutôt les tonalités de l'inconvenance, voire même de l'impudeur, et ce d'autant plus si l'on considère les critères de bienséance de l'époque.
C'est vrai Jean-Luc, voilà qu'une femme échevelée entre dans la maison d'un pharisien chez qui Jésus a été invité. Elle est dite, on l'a entendu, fautive, pécheresse selon les traductions. Luc n'explicite pas ce qu'elle a fait pour être ainsi désignée, mais elle a souvent été considérée comme une prostituée, car la suite de l'histoire vient étayer cette idée. En effet, aucune pudeur ne semble la retenir. Elle franchit tous les codes de distanciation sociale de l'époque, entre hommes et femmes, et elle fait preuve d'une familiarité sensuelle et provocante. Pensez-vous, elle embrasse les pieds de Jésus, elle les essuie de ses cheveux et elle répand sur eux du parfum.
Cette histoire a donc le parfum du scandale, si j'ose dire. Et pourtant, ce scandale est raconté dans les quatre évangiles.
Alors, oui et non. En réalité, c'est surtout chez Luc que ce récit prend les tonalités d'une inconvenance scandaleuse. Tout d'abord du fait de l'identité de cette femme, puisque Luc la catégorise comme fautive ou pécheresse, selon la traduction choisie. Mais aussi du fait des gestes qu'elle pose, puisque cette femme verse le parfum, non pas sur la tête de Jésus, comme dans les évangiles de Matthieu et de Marc, mais sur ses pieds. Et c'est Luc qui théâtralise le plus ce geste. En effet, il raconte qu'elle pleure. Au parfum se mêlent ses larmes qu'elle essuie avec ses cheveux.
Et puis l'impression de scandale est sans doute attisée par le fait que Jésus se laisse faire, n'est-ce pas?
Oui, car l'histoire continue ainsi.
Voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit en lui-même : « Si celui-ci était un prophète, il saurait qui est la femme qui le touche et ce qu'elle est. Une femme en faute.
Pasteur Nathalie Chaumet, on perçoit très clairement que les gestes de cette femme heurtent la foi du pharisien.
Et pourtant, Jean-Luc, il y a une incroyable bonne nouvelle dans cette histoire. C'est que Jésus se laisse approcher, il se laisse empoigner, baigner de larmes, oindre de parfum par cette femme. Cette femme que tous considèrent comme, à minima, fautive. Cette femme dont nous pourrions dire qu'elle a perdu tous ses points au permis social de la respectabilité, qui semble conduire sa vie au risque de la transgression. Cette femme qui découvre qu'elle peut s'approcher de Jésus, qu'elle est pleinement accueillie.
Donc dans cette histoire, on a l'impression qu'il y a un jeu de miroir antagoniste entre le pharisien et la femme en faute.
Nous pouvons remarquer, Jean-Luc, que dans cette histoire, la femme est désignée par le poids de son indignité sociale. Et cette indignité invisibilise toute autre caractéristique. De son histoire, nous ne savons et ne saurons rien d'autre. Et par ses manques, ses omissions, le récit attire notre attention sur tous ces phénomènes d'invisibilisation de ceux et celles que les sociétés regardent comme infréquentables, avec des marges de tolérance plus ou moins grandes. Les femmes en ont souvent été les premières victimes, et c'est encore le cas dans bien des lieux.
Dans notre histoire, cette femme, décrédibilisée par la vie qui est la sienne, et stigmatisée par le regard de ses concitoyens, vit donc dans l'humiliation des fautes qui lui sont imputées.
Olivier Abel, qui a écrit un ouvrage sur l'humiliation, dit de l'humiliation qu'elle attaque la représentation du sujet, sa reconnaissance, sa crédibilité et l'image que nous nous en faisons. Et justement, de cette femme, nous ne pouvons pas nous faire une autre représentation que celle de sa faute. Et contrairement aux pharisiens dont nous découvrirons qu'il s'appelle Simon, la femme restera anonyme. Et Jean-Luc, je ne peux pas m'empêcher de regretter un peu que l'évangéliste Luc ne l'ait pas nommé vis-à-vis de Simon, pour peut-être lui donner toute sa reconnaissance d'être. Mais c'est toute la force aussi de ce récit, malgré le poids de l'indignité sociale sur lequel l'histoire insiste. Cette femme s'approche de Jésus, et celui-ci non seulement la laisse s'approcher, mais plus encore l'accueille, en pleine acceptation des gestes posés.
Alors de votre point de vue, Nathalie, entre le pharisien et la femme, où nous situons-nous, nous autres lecteurs d'aujourd'hui, dans cette histoire avec ces personnages si typés? Il n'est pas forcément si facile de nous identifier à l'un d'eux.
Eh bien, c'est à chacun de répondre, je crois. Peut-être que certains se sentiront d'emblée proches de cette femme, dans sa quête d'amour, sa quête de grâce, dans son audace aussi, dans son élan ou dans l'ampleur de son don. À l'inverse, d'autres seront peut-être avec le pharisien, heurtés par l'expressivité de sa foi sans manière, son effusion débordante. De plus, le pharisien est, lui, un personnage qui s'efforce d'avoir une vie aussi juste que possible, il faut le dire. Il invite même Jésus à manger chez lui, il a le sens de l'accueil, de l'hospitalité. Ce n'est donc pas un homme enfermé dans sa tour d'ivoire ou sa vérité théologique. Nous pouvons peut-être facilement nous identifier à lui dans notre quête d'une vie aussi juste que possible. À moins, Jean-Luc, et c'est l'interprétation que je préfère, que ces personnages ne soient les deux facettes de notre propre histoire. Avec côté face, le côté, je dirais bien sous tout rapport, ce côté que nous nous efforçons d'afficher, la meilleure version de nous-mêmes, comme nous disons aujourd'hui, et de l'autre côté, côté pile, ce sentiment d'indignité, de manque qui parfois nous envahit. Peut-être que nous sommes à la fois Simon dans sa quête de respectabilité, sa quête de bien, sa quête de foi, lorsque nous ouvrons notre Bible, comme il ouvre sa maison à Jésus. Et puis cette femme en faute, avec nos insatiables manques d'amour que rien ni personne ne semble pouvoir combler.
Si je vous comprends bien, nous serions ainsi tout à la fois le pharisien avec nos élans de foi et cette femme avec le poids de nos misères.
Eh bien, c'est une possibilité de lecture. À moins encore, Jean-Luc, qu'en écoutant cette histoire, nous ne nous soyons glissés au milieu des convives, cherchant peut-être à partager ce repas.
C'est vrai.
Les repas dans la Bible interrogent souvent la question de l'alliance. Alors, écouter cette histoire, est-ce que ce serait nous inviter, avec certes plus de discrétion que cette femme, au banquet de la grâce de Dieu ? Dans cet accueil inconditionnel que Jésus incarne ici.
En tout cas, ces interprétations nous font changer de regard sur ce qui se passe. Ce repas qui tourne mal, avec l'irruption malencontreuse de cette femme et ses gestes déplacés, devient alors un festin de grâce dans l'abondance de l'amour de Dieu où chacun, chacune peut prendre place. Et ça, je trouve ça assez incroyable, n'est-ce pas ?
Oui, tout à fait, Jean-Luc. L'évangile de Luc insiste beaucoup sur cette dimension, cet accueil en Christ de tous, qu'ils soient misérables, pécheurs ou infréquentables. Et voici donc une clé de lecture possible. Ce repas préfigure la table du royaume et derrière cette proximité, présentée comme dérangeante, inconvenante, presque impudique, les gestes de cette femme nous disent peut-être l'intensité d'une forme de communion spirituelle, de cœur à cœur avec Dieu. Ce n'est plus le projecteur pointé sur les fautes de cette femme, mais l'invitation à une grande tablée d'espérance. Et dans cette lecture, Jean-Luc, je trouve une petite Madeleine de Proust. La table, l'accueil, l'huile parfumée, la maison. Est-ce que notre histoire ne ferait pas surgir quelques réminiscences du psaume 23 ?
Oui, j'apprécie aussi beaucoup cette Madeleine, Nathalie. Alors, prenons quelques instants peut-être pour y réfléchir avec la jolie harpe de Pauline Griffith et puis cet air russe varié de Pierre d'Alvimar. Parfum du scandale succède le parfum de la grâce. Mais Nathalie, dans notre histoire, nous sommes bien loin de cet éclairage. À ce stade, en tout cas, le récit nous fait plutôt partager l'indignation de ce pharisien. Et loin de se sentir participant d'un festin où tous sont accueillis, il va prendre ses distances avec Jésus, d'une certaine manière s'exclure de ce repas qu'il a pourtant lui-même orchestré.
Et oui, ce pharisien voudrait bien établir une ligne de séparation nette entre les fréquentables et les infréquentables, ceux qui peuvent avoir part à la table du royaume et ceux qu'il faudrait exclure, tenir à distance. Je crois qu'il est ici le miroir de notre propension finalement à dénoncer les fautes d'autrui pour mieux nous rassurer sur nous-mêmes et sur la place que nous tenons. Le récit nous renvoie à la parabole peut-être de la poutre et de la paille ou à cette autre parole de Jésus en amont de notre histoire qui invite à ne porter de jugement contre personne.
Le pharisien oublie donc que même celui qui mène une vie aussi juste que possible n'en reste pas moins pécheur, c'est-à-dire marqué par les insuffisances de son existence.
C'est ce qu'il va découvrir et c'est ce qui est passionnant dans notre histoire, Jean-Luc. Nous ne sommes pas d'un seul bloc, tout bon, tout mauvais, dans un blanc et noir de la foi. C'est extrêmement rassurant pour chacun et chacune d'entre nous qui sommes parfois portés par des élans de foi, heureux de nous-mêmes, heureux du crédit que la société nous fait, un peu comme Simon, et parfois aussi au risque d'un sentiment d'insuffisance, dans une fatigue, d'un devoir paraître difficile à assumer. En tout cas, que nul ne peut se draper dans sa dignité en prenant pour appui les insuffisances d'autrui, c'est ce que Jésus va faire découvrir à Simon par une maïeutique stimulante, le détour d'une petite histoire. Écoutons la suite de ce récit.
En réponse, Jésus lui dit « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Celui-ci déclare « Parle, maître. » Un créancier avait deux débiteurs. L'un lui devait 500 deniers, l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi rembourser, il fit grâce aux deux. Lequel des deux l'aimera le plus ? Simon répondit : Je suppose que c'est celui auquel il a fait le plus grâce. Jésus lui dit : Tu as bien jugé. Et se tournant vers la femme, il dit à Simon : Tu vois cette femme ? Je suis entré dans ta maison. Tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds, mais elle a mouillé mes pieds de larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baisers, mais elle, depuis que je suis entrée, n'a pas cessé de me couvrir les pieds de baisers. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreuses fautes ont été remises, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui peu est remis aime peu. Puis il dit à la femme : Tes fautes t'ont été remises. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes : Qui est celui qui va jusqu'à remettre les fautes ? Jésus dit à la femme : Ta foi t'a sauvée. Va en paix.
Jean-Luc, nous l'avons entendu dans la parabole que Jésus raconte, les deux personnages sont débiteurs. L'un s'estime-t-il plus haut sur l'échelle du bien social et donc plus proche de Dieu ? Qu'à cela ne tienne, la parabole souligne que ni l'un ni l'autre n'avait de quoi rembourser, c'est-à-dire que même le meilleur d'entre deux n'en reste pas moins débiteur, incapable de combler par lui-même les manques de son existence. Cette petite parabole rappelle ici à Simon, dans un reflet sans phare, et donc à nous-mêmes, qu'il n'y a pas de vie qui ne soit entamée par ses vulnérabilités, ses manques, ses erreurs, ses fautes, ses insuffisances, même lorsqu'on s'appelle Simon, même lorsqu'on mène une vie aussi juste que possible et qu'on accueille Jésus dans sa maison.
Alors donc, si je vous comprends bien, pasteur Nathalie Chaumet, si cette femme caractérisée par sa faute peut entrer dans la grâce de Dieu, alors quel fantastique chemin de libération pour Simon également et pour toutes et tous. Quelle effusion de joie à la mesure de la bonne odeur du parfum qui se répand.
Eh bien Jean-Luc, je sais que vous aimez cuisiner puisque oui. Vous avez écrit un livre qui s'intitule « À table avec la Bible ». Eh bien nous pourrions peut-être dire que ce parfum répandu, c'est un peu comme la bonne odeur d'un repas qui mijote, une invitation, oui, à saisir l'instant, à prendre part au festin. À nous réjouir.
Alors forcément, l'image me parle bien sûr, comme la Madeleine tout à l'heure, et avec les émotions d'ailleurs qui sont présentes naturellement. Et justement, Nathalie, cette femme sans retenue aucune, en larmes aux pieds de Jésus, dites-nous à quoi nous renvoient donc ces larmes ?
Alors ces larmes sont laissées à notre interprétation. Certains y voient des larmes de repentance. La femme viendrait implorer le pardon de Jésus. Mais cette lecture pointe le projecteur sur les fautes de cette femme, sur sa créance. Elle nous conduit aussi facilement à nous draper avec Simon dans notre dignité bien trompeuse, comme nous l'avons dit. D'autres dont je suis pensent que ces larmes expriment plutôt une joie intérieure profonde, un sentiment de libération lié à cet accueil inconditionnel.
Vous voulez dire, Nathalie, que cette femme n'implore pas le pardon de Jésus, mais dit sa reconnaissance d'être déjà accueillie dans la grâce de Dieu ?
Eh bien oui, je crois que cette histoire nous raconte un déjà-là de la grâce. Je crois que c'est la précédence de l'amour du Christ qui permet à cette femme de trouver sa place à ses pieds, sans censure, sans rejet. C'est la foi qui naît du sentiment d'être trouvée, pour reprendre une expression de la pasteur Lita Bassé. Ce sentiment bouleversant jusqu'aux larmes d'être trouvé, certains en font l'expérience. Je pense par exemple à Pascal et à sa nuit de feu. Il a écrit alors ces mots qu'on retrouvera dans la doublure de son vêtement et qu'on nommera par la suite son mémorial. Certitude, certitude, sentiment, joie, paix, Dieu de Jésus-Christ. Et encore un peu plus loin, Père juste, le monde ne t'a point connu, mais je t'ai connu. Joie, 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 pleurs de joie. Mais pour revenir à l'histoire, Jean-Luc, je crois donc que ces larmes marquent la joie intérieure de la grâce et le parfum répandu, le passage de la grâce à la gratitude. Dans les autres évangiles, le parfum annonce l'imminence de la mort. Ici, il résonne plutôt comme la proclamation d'une bonne nouvelle. Dieu fait grâce et la joie qui en résulte est bouleversante.
Une petite remarque en vous écoutant sur jouer au cinéma. D'ailleurs, c'est peut-être parfois un excellent choix pour ajouter du sens aux circonstances. Et je pense là à Juste la fin du monde de Xavier Dolan, par exemple, prix du jury écuménique 2016 à Cannes. Mais on revient à notre récit, Nathalie. Dans la description de l'action, le lecteur n'a-t-il pas le sentiment d'un temps suspendu dans une action qui dure ?
C'est vrai, et non seulement cette action dure, mais tout s'enchevêtre. Cette femme pleure, en même temps elle embrasse les pieds de Jésus, elle les essuie de ses cheveux, elle répand sur eux du parfum. On a le sentiment d'un bouleversement intérieur dans une complexité d'émotions. Et je crois que cela nous renvoie très justement à nous-mêmes, car Jean-Luc, dans la réalité de nos vies, en fait, nos sentiments sont rarement limpides et ils sont rarement d'une seule source, si je puis dire. Si nous pensons au deuil, par exemple, le chagrin, la colère, le soulagement parfois, l'aspiration à la paix, tout cela est en nous entremêlé et il n'est pas si facile justement de démêler les chevaux de nos émotions. Cela me renvoie à ce moment, vous savez, dans la parabole du fils prodigue où le père serre le fils dans ses bras. Je crois qu'il y a dans cet instant-là tout à la fois de la repentance, celle du fils, de la pitié, mais aussi de l'amour, de la joie, du soulagement. Et tout cela est exprimé en une étreinte. Eh bien, je crois qu'il en va de même ici, le déjà-là de la grâce, le poids de l'hier, de l'opprobre, l'après-coup de la reconnaissance, la quête de paix. Je crois que tout cela se dit dans ce geste du parfum qui se mêle aux larmes, dans cette complexité de sentiments que nous pouvons parfois vivre.
Nathalie, pourrions-nous parler de ferveur à propos des gestes de cette femme ?
De ferveur. Alors voilà un mot qui tombe en désuétude. C'est un mot qui fait souvent peur. Les fervents de nos jours sont ceux qui manquent du recul nécessaire, du sang-froid pour évaluer une situation. Et pour moi, je dois dire que ce mot évoque plutôt le risque de l'abandon de la raison et du discernement. Je serais plutôt de ceux et celles qui s'inscrivent dans, disons, une forme de retenue ou de sobriété. L'élan passionné de cette femme de l'Évangile m'aurait sans doute fait faire plutôt un pas en arrière qu'un pas en avant. Mais Nathalie Sartou-Lajou, qui a mené une réflexion passionnante sur ce thème dans la collection « Qu'est-ce que ça change ?» de Labor et Fides, m'a réconciliée avec ce petit mot de ferveur. Car elle souligne aussi le nécessaire élan de vitalité, d'enthousiasme, de débordement qui est nécessaire à la vie. Alors elle dit ceci de la ferveur, qu'elle est soif brûlante de vivre. Je crois, Jean-Luc, que c'est le cas de cette femme qui a cette soif brûlante de vivre. Elle dit encore que la ferveur est le nom de ce dépassement de soi par cette ouverture à une transcendance qui brise la clôture de l'individu sur lui-même. Alors peut-être que c'est un peu compliqué à saisir à l'écoute, mais je crois qu'il y a là une clé pour relire notre histoire de ce jour. La ferveur comme dépassement de soi, c'est ce qu'exprime le geste du parfum répandu et des larmes versées. Il manifeste une sortie de soi, la possibilité de déployer sa vie par-delà les vases clos des jugements. Une ouverture à une transcendance en la personne de Jésus. Et puis cette brisure de la clôture de l'individu sur lui-même, c'est-à-dire qu'ici est brisé l'enfermement de l'étiquette fautive, pécheresse qui est assignée à cette femme. En tout cas, fervente ou pas, je crois que la femme découvre une joie d'être qui la déborde. Dans l'accueil inconditionnel de Jésus, elle trouve une place que nul ne peut lui ôter, pas même Simon et ses raisonnements, pas même nous et les méandres de nos auto-justifications. Ce geste de la femme, j'y vois avec un peu d'avance une forme de Pentecôte qui libère des condamnations et redonne une joie d'être, une forme d'élan vital.
Cette joie profonde que vous évoquiez, de gratitude, serait-ce celle que Luther a expérimentée ?
Eh bien, Jean-Luc, le moine réformateur raconte avoir vécu cet accueil inconditionnel de Dieu. Alors qu'il tentait d'être au moins aussi irréprochable que Simon le pharisien, il avait au contraire le sentiment de s'éloigner de plus en plus de Dieu. Il a alors fait l'expérience d'être délivré du poids de son péché, de sa misère. Voici ce qu'il raconte. « Or moi qui vivais comme un moine irréprochable, je me sentais pécheur devant Dieu avec la conscience la plus troublée et ne pouvais trouver la paix par ma satisfaction. » Il expérimente alors en lisant l'Épître aux Romains l'action justifiante de Dieu et raconte « Je me sentis un homme né de nouveau et entré les portes grandes ouvertes dans le paradis même. Ce passage de Paul fut vraiment pour moi la porte du paradis. » Ainsi, l'expérience de la grâce de Dieu sur sa vie a été pour Luther aussi une source de joie débordante, incroyable.
Mais Nathalie, alors nous approchons bientôt de la fin. Pourrions-nous quand même aborder une autre question, bassement matérialiste, mais nécessaire? C'est celle du prix de ce parfum, car les autres évangiles pointent le caractère dispendieux du geste de cette femme. Dans l'évangile de Matthieu, il est dit que c'est un parfum de grand prix, entre guillemets, et Marc et Jean spécifient même sa valeur, 300 deniers, soit presque un an de salaire à l'époque, semble-t-il. Par ailleurs, les trois évangélistes soulignent le profit qu'on aurait pu en tirer en donnant l'argent aux pauvres.
C'est vrai, dans l'évangile de Luc, le prix de ce parfum n'est pas évoqué. On se doute simplement que c'est un parfum précieux car il est conservé dans un vase d'albâtre, une matière plutôt noble, peu importe. Je crois que pour Luc, ce qui compte, c'est le don que cette femme effectue. Et je trouve cela magnifique que ce parfum soit finalement sans prix. Car Jean-Luc, faudrait-il évaluer tous nos gestes, les quantifier? La société nous y pousse. Regardez, lorsqu'on est invité, il est fréquent parfois d'apporter un présent à ses hôtes, mais finalement, aucun cadeau n'est à la mesure de la valeur d'une amitié. Leur valeur réside justement dans le geste. Dans les autres évangiles, cette femme est considérée comme prodigue au sens premier du terme, c'est-à-dire inconséquente face à l'argent dépensé. Son geste est critiqué. Mais si à l'inverse, ce parfum avait été bon marché, est-ce qu'elle n'aurait pas été aussi critiquée pour son avarice ? Luc évite, je crois, le piège du coût et il insiste sur la gratuité du geste, sur sa valeur intrinsèque. Il y a un petit passage du journal d'Eti Ilzoum qui évoque cette question de l'utilité ou de la vanité de nos gestes. Elle écrit ceci en 1942 et c'est Florence qui nous lit ce passage.
23 juillet, 9h du soir. Hier soir, après une longue marche sous la pluie et malgré mes ampoules aux pieds, j'ai fait un dernier petit détour à la recherche d'une charrette de fleuriste et je suis rentrée chez moi avec un grand bouquet de roses. Et elles sont là. Elles n'en sont pas moins réelles que toute la détresse que je vois en une journée. Et Etil Soum raconte que beaucoup lui disent alors « Comment peux-tu encore songer à des fleurs ?»
Voilà comme les disciples reprochent à la femme son geste dispendieux, perdu. Etil est renvoyé à la futilité des fleurs en temps de guerre. Mais ces roses sont-elles futiles, dispendieuses, ou sont-elles une manière de continuer à avancer dans la vie avec un parfum d'espérance ? Et aujourd'hui, pour nous, le parfum de cette femme ne continue-t-il pas de se répandre comme la mémoire d'un amour sans mesure ? Alors cette question m'évoque de nouveau l'histoire du fils prodigue. Ce fils cadet est dit prodigue parce qu'il dépense tout à outrance. Mais lorsque son père le serre dans les bras, lui fait passer une belle tunique, fait tuer le veau gras pour une fête de réjouissance car son fils était perdu et retrouvé, ce père n'est-il pas lui aussi prodigue ? Au sens, cette fois-ci, d'une munificence, si je puis dire, d'une générosité. Alors cette femme qui répand le parfum sur les pieds de Jésus, était-elle prodigue au sens premier du terme, c'est-à-dire gaspilleuse, dispendieuse, à la manière du fils cadet ? Ou son geste est-il, comme le père, de munificence, c'est-à-dire d'une générosité propre à signifier l'immensité de la grâce de Dieu.
La munificence, voilà un terme en effet rarement utilisé, qui célèbre la beauté de ce geste, pourtant bien terre à terre au pied de Jésus.
Oui, c'est vrai, je pense que Luc, en choisissant de passer sous silence le prix du parfum, nous dit à sa manière que la grâce de Dieu est inestimable, incalculable. Que cette place au pied de Jésus dans la bienveillance de son amour n'a pas de prix. Très souvent, vous savez, Jean-Luc, lorsqu'il est question d'argent, comme par exemple dans la parabole des ouvriers de la dernière heure où chacun est payé la même somme, malgré la différence du travail accompli, eh bien c'est qu'il est en réalité question de valeur derrière l'argent. Aux yeux de la société de l'époque, la valeur de cette femme dite pécheresse était nulle. Je dirais même plus que sa valeur était négative, puisque le pharisien exprime le fait que Jésus aurait dû la maintenir à distance. C'était une femme de mauvaise vie, une femme qui ne valait rien. Le parfum est alors pour elle le prix inestimable d'être aimée, accueillie, reconnue comme valable et donc valorisée. Aux yeux de Dieu, tous nous comptons, tous nous avons une valeur incommensurable, une valeur insaisissable, que Luc se refuse à chiffrer. Dans un ouvrage intitulé « Toujours le mot pour dire », Vincent Smetana, que vous connaissez bien, Jean-Luc, puisqu'il intervient sur Solae, l'émission du dimanche matin, nous fait réfléchir sur la grâce. Et il rappelle que Chouraki, dans le célèbre verset « Ma grâce te suffit » de 2 Corinthiens, a traduit « Mon chérissement te suffit ». Voilà finalement peut-être que cette histoire est une jolie manière de nous dire le chérissement de Dieu sur nos vies. Un parfum non pas de scandale mais de grâce, d'amour. Une histoire qui nous invite à nous laisser porter par le courant de la gratitude, cette reconnaissance pour la grâce reçue, à ouvrir, à partager tous les inestimables de nos vies, la grâce mais aussi la foi, la joie, l'espérance, l'amour, l'amitié, à ne pas en être avare ni comptable.
Eh bien, c'est avec ce chérissement de Dieu que nous allons conclure en rappelant que ce geste gratuit dit une gratitude qui déborde nos calculs, nos raisonnements. Il nous invite à accueillir une grâce qui ne se mérite pas, mais qui se reçoit dans la joie. Merci Nathalie Chaumet, merci Florence Guémy. Et puis rendez-vous dimanche prochain, ici même sur France Culture à 16h, avec une autre femme dans son rapport à Jésus et bien sûr avec un autre geste à découvrir. Solae, le carême protestant, vous était proposé par la Fédération protestante de France en partenariat avec l'Église protestante unie de l'Annonciation à Paris. Merci à Thomas Jost pour la réalisation, merci à José Bernès pour la prise de son. Cette émission est à réécouter sur le site de France Culture ainsi que sur l'application Radio France. Je vous rappelle que les éditions Olivetan éditent comme chaque année un livre, des gestes pour espérer, correspondant donc à ces conférences avec quelques ajouts complémentaires. Il est en vente au prix de 15 euros plus frais. frais de port et les commandes peuvent être réalisées en ligne sur le site internet www.éditions-olivetan.com. L'ouvrage sera envoyé directement par voie postale à l'issue des conférences. Et maintenant, sur France Culture, je vous laisse avec le carême catholique.